Radio Okapi.
Maisha bora.
Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Nous sommes heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Maisha Bora et nous vous parlons aujourd'hui de la hernie inguinostrocale chez l'enfant, symptômes et prise en charge médicale. Marcel Ngomombala est à la présentation, Jean-Claude Sial assure la mise en ordre de ce magazine sous la supervision de Jean-Marc Matraki. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute. Encore une fois, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Dans ce nouveau numéro de Maisha Bora, nous restons dans le chapitre concernant les hernies. Après avoir parlé la dernière fois de la hernie discale lombaire qui apparaît généralement entre 20 et 50 ans, nous vous parlons cette fois-ci de la hernie inguinostrocale chez l'enfant. Quelles sont les causes de cette maladie et comment s'est fait la prise en charge médicale? Pour en savoir davantage sur cette maladie, nous sommes rendus à l'hôpital pédiatrique de Kalemelembe, ici à Kinshasa. Ça dans la commune de Lingala, car il faut d'emblée le dire, cette maladie est très courante chez les enfants de sexe masculin, mais la prise en charge médicale pose problème chez les familles démunies. De ce fait, cette maladie fait partie des pathologies retenues pour la campagne d'intervention chirurgicale qui va se dérouler à l'hôpital pédiatrique de Kalemelembe à partir du 5 août prochain, en partenariat avec l'équipe médicale de l'ONG internationale Médecins sans vacances. Mais avant d'avoir plus d'éclairage sur les causes, symptômes et traitements de la hernie inguinostrocale avec le docteur Dodo Musungu Noël, chirurgien et chef de service de chirurgie infantile à l'hôpital pédiatrique de Kalemelembe. Suivons d'abord les témoignages de ces deux dames venues avec leurs enfants pour une consultation dans cet hôpital en vue de bénéficier de la campagne d'intervention chirurgicale qui aura lieu dans cet hôpital à partir du 5 août prochain.
Mais pour l'intervention, il y a moi en Angaï. Déjà intervention ya hernie pona mwana nga na hôpital ya Kalemelembe eza na cadre ya campagne nde yango nayaki. Déjà tosito kendaka na hôpital mususu neti azali na mwana muke balobi ya kola na lelo déjà mwana kokisi 9 yango wana tango nakwaki ke campagne ezali en tout cas na se déranger na ya pona intervention mwana nga. Donc mwana ndenga za na hernie boye en tout cas croissance ya mwana ezalaka un peu fermée. En plus, ça, donc, après 2 mois, 3 mois, bon, la moine a manifesté ma fièvre. Au moins, la hermoco sexe naïe, et ressalé, parce que moi, hermoco est gonflé. En tout cas, tant qu'on a monique et campagne est allée, moi, un peu net, c'est vraiment été, et on a bien profité de la campagne. Disons,
Bon, na yo kaki kampani ba usel sana na Kalemelembe, bo me mabana abasala bango ba erni, bana nyoso bazana bokono. Na yo kutala mwa anangai pe aderanjaga na bokono ya erni. Bo ye tungsaki omona mutu pati, nzoto malili, omona bambuma na yo zo vimba. Nde ya mwana mwana. Ya mwana na memie awa, batala ye. Tango azalaki na 7 ans, na memaka ye na sana, basala kaye. Basala ka operasyon ya erni na sana. To bimi to ye na ndaku, eleki mikolo ezo manifeste ka asekti na ye, ezo vimba kaka. Nde tango alaki singa mama tala nga nabie ezo ngi isusu. Tango na ye koyoka awa, esale nga pasi ya wana bina memaye na okuna.
Et voilà, il s'agit donc des témoignages de deux dames dont les enfants présentent une hernie inguinale scrotale. Les deux enfants sont âgés de moins de 10 ans et ont une sorte de gonflement au niveau des parties génitales. La deuxième dame affirme que son enfant a même été opéré une première fois, mais sans succès. Alors, que faut-il comprendre par une hernie chez l'enfant? Quelles sont alors les causes de la hernie? Et à quel moment peut-on parler de la hernie inguinoscrotale, qui est en fait une forme de hernie que l'on retrouve chez une personne de sexe masculin? Les explications avec le docteur Dodo Musungu Noël, nous l'avons dit, il est chirurgien et chef de service de chirurgie infantile à l'hôpital pédiatrique de Kalemelembe.
Alors, de manière un peu simpliste, la hernie chez l'enfant, en général, c'est une maladie que l'enfant naît avec. c'est une malformation que l'enfant naît avec. Parce que quand la pathologie se présente à la naissance, donc c'est une malformation. L'enfant est né avec une malformation dans son organisme. Alors la hernie, c'est la progression normalement des intestins qui sort souvent par les scrotums des hommes. Là où se situent normalement les testicules, les intestins aussi progressent, viennent jusqu'à ces niveaux-là. Ça c'est de façon simpliste quand on dit une hernie inguino-scrotale. C'est-à-dire les intestins, au lieu de rester seulement dans le ventre, ça descend jusqu'au niveau des organes génitaux externes de l'homme ou bien de la fille, parce que et ça se trouve pas seulement chez l'homme, ça peut se retrouver aussi chez la fille. Maintenant, ça suit un canal. Le canal là permet que l'intestin ou autre organe dans la cavité abdominale puisse progresser jusqu'au niveau des organes externes génitaux de l'homme ou de la femme. Normalement, quand nous naissons, il y a un canal qu'on appelle canal péritonéo-vaginal. Donc, ça communique la cavité abdominale et le scrotum, la vaginale. Alors, ce canal-là, normalement, doit se fermer, soit à la naissance, soit quelques mois après la naissance, 2-3 mois. Alors, quand le canal-là ne se ferme pas et que ça garde un gros calibre, à ce moment-là, quand il y a une pression intra-abdominale, donc c'est-à-dire il y a la tension qui augmente dans la cavité, alors les intestins vont chercher là où fuir. Alors, pour fuir, comme il y a ce canal-là, ils vont suivre le canal-là pour se retrouver dans les bourses où, normalement, loge les testicules. À ce moment-là, nous parlons de la hernie. Mais, en général, on parle normalement des pathologies du canal péritonéo-vaginal, au cours desquelles on peut retrouver la hernie, on peut retrouver l'hydrocèle, on peut retrouver les testicules baladaires ou cryptochélies, c'est-à-dire les testicules, au lieu de migrer jusqu'au niveau du scrotum, restent un peu haut situés sur le trajet. Donc normalement, on appelle ça les pathologies du canal péritonéo-vaginal. Mais c'est la hernie inguino-scrotale qui est un peu plus grave parce que ça présente des complications qui peuvent amener jusqu'à la mort.
Et quand on parlait de l'hernie inguino-scrotale, ça c'est seulement chez l'homme?
Inguino-scrotale, c'est seulement chez l'homme parce que l'homme, il a le scrotum. Mais c'est la femme, ça se limite au niveau des lèvres.
Vous avez donc suivi, il y a différentes formes de hernie que l'on peut retrouver chez un enfant de sexe masculin ou féminin, mais quand on parle de la hernie inguino-scrotale, elle ne concerne qu'un enfant de sexe masculin car le scrotum ne se retrouve que chez l'homme. Il s'agit de cette enveloppe qui entoure les testicules et quand les intestins progressent vers cette enveloppe, cela gonfle et on parle de la hernie inguino-scrotale qui est une malformation congénitale, c'est-à-dire l'enfant né avec. Alors, puisqu'il s'agit d'une malformation congénitale, la question que l'on peut bien se poser, à quel moment apparaissent le premier signe ou bien comment arrive-t-on à diagnostiquer cette maladie? En principe, le premier signe d'alerte peut se manifester dès la naissance pendant que l'on examine l'enfant. Mais au cas où cela aurait échappé au personnel médical, les parents peuvent bien être alertés par certains signes que l'enfant peut manifester à la maison, comme le souligne le docteur Dodo Musungu Noël.
Normalement, dès la naissance, on peut déjà voir ça. Parce que quand l'enfant naît, il doit être évalué pour savoir est-ce qu'il est bien né, il est en bonne santé, il ne pose pas de problème. L'enfant crie. Le fait de crier, ça crée déjà une pression dans la cavité abdominale, qu'on appelle la pression intra-abdominale. Quand il y a déjà cette pression-là, les intestins vont aller vers la périphérie. S'ils trouvent le canal-là déjà qui persiste, il est là, les intestins vont emprunter ça. Donc dès que l'enfant naît déjà, quand il crie, le parent, ou bien les parents peut-être ne sont pas avertis, mais le médecin, il peut déjà voir à la naissance, déjà que ça, c'est une hernie inguino-scrotale, dès la naissance. Normalement, les signes, les parents vont voir dans le jour qui vont venir, ou bien dans le mois, que le scrotum, parce que nous avons le scrotum, mais on appelle ça hémiscrotum, parce qu'il y en a deux. Ils vont voir si c'est la hernie et d'un seul côté. Ils vont voir que le scrotum, d'un seul côté, va commencer à prendre du volume plus que l'autre. Et puis, les parents vont remarquer que quand l'enfant pleure ou quand l'enfant joue très fortement, il exerce la pression intra-abdominale. Ce scrotum-là, du côté qui est intéressé, va prendre beaucoup de volume. S'il se calme, ça régresse. Les parents vont constater que ce n'est pas normal. Quand l'enfant pleure, ça augmente de volume. Et quand l'enfant cesse de pleurer, ça rentre dans l'abdomen. Ils vont se dire, c'est qu'il y a quelque chose qui gonfle au niveau du scrotum. Alors, les parents doivent se rendre compte quand ils lavent l'enfant déjà. Quand l'enfant pleure, normalement, s'ils font attention au niveau du scrotum, ils vont voir que l'un des scrotums prend beaucoup de volume par rapport à l'autre. et ça peut rester même cette déformation-là, même si l'intestin rentre, mais il va constater que l'escroton par lequel plonge les intestins va rester toujours un peu plus volumineux par rapport à l'autre côté. Donc les parents, ils doivent déjà être sensibles. Quand ils lavent déjà l'enfant, l'enfant en pleurant, ils doivent faire attention de faire des sortes de regarder l'escrotum pour voir si ça gonfle ou ça ne gonfle pas.
Il faut également savoir que le traitement de la hernie inguino-scrotale est chirurgical. Avec les techniques modernes, il n'y a plus question d'attendre que l'enfant grandisse. On peut déjà l'opérer dès que l'on estime que les conditions sont optimales, donc même quand il s'agit d'un nouveau-né. D'après le docteur Dodo Musungu Nawal, chirurgien et chef de service de chirurgie infantile à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, cet hôpital dispose d'équipements nécessaires, mais le grand problème est que la plupart des parents sont dépourvus des moyens, ce qui pose souvent un vrai problème de prise en charge médicale lorsqu'il faut une intervention chirurgicale, et pourtant cette maladie peut entraîner de graves complications.
Alors le traitement, c'est le traitement est chirurgical. Alors dans les temps, l'ancienne théorie disait il faut attendre que l'enfant puisse grandir, mais avec l'évolution de la science, nous actuellement nous disons que la hernie inguino-scrotale c'est une urgence programmable. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants que nous avons reçus ici chez nous à Kalembelembe avec une hernie déjà étranglée, donc déjà dans une complication sévère. Étranglée, traînée par-ci par-là à la cité. Quand il arrive chez nous avec un tableau d'occlusion intestinale et parfois les scrotum déjà presque remaniés, ça peut même se perforer et l'intestin sort même par les scrotum. La raison pour laquelle on s'est dit actuellement, la hernie, dès que vous diagnostiquez et que si ça prend du volume, si vous êtes à mesure de l'opérer, il faut l'opérer. Si vous n'êtes pas à mesure d'opérer un nouveau-né, vous transférez dans une institution qui a le nécessaire pour opérer le nouveau-né. On peut opérer même quand il est nouveau-né, même plus tard. Mais il est conseillé de l'opérer le plus tôt possible pour éviter les complications qui ne sont pas prévisibles. Normalement, nous avons le nécessaire pour opérer les enfants. Mais comme vous le savez, nos parents qui amènent les enfants, souvent ils sont diminués. Ils s'amènent presque rien. Ils passent d'abord dans tel centre, là où on fait n'importe quel examen, le diagnostic n'est pas posé. Quand ils voient des complications, ils transfèrent. Et les parents, quand ils nous arrivent à l'hôpital, ils sont presque dépouillés de tout. Ils n'ont presque plus rien. En ce moment-là, c'est une urgence, faut opérer en urgence. C'est à ce niveau-là que nous avons des difficultés. Parce qu'il faut chercher, parfois, il faut avoir le sang, parfois, il faut avoir les nécessaires pour opérer que nous appelons les intrants. Compresses, alcool, bétadine, sparadrap, cathéter, tout ce qui nous permet à opérer l'enfant. Les parents, normalement, doivent acheter. Et vous remettez l'ordonnance aux parents, les parents incapables d'acheter parce qu'ils sont dépouillés par où ils sont passés. À ce moment-là, parfois, nous, comme nous avons quelques intrants d'urgence, quand nous voyons que c'est vraiment une urgence, on le prend quelle que soit la situation. Parce que si on doit attendre que les parents réunissent, l'état de l'enfant se dégrade davantage, on risque de le perdre. Et nous, à Kalembelembe, nous sommes capables, quand les enfants arrivent comme ça, nous les opérons, même s'ils n'ont encore presque rien. Mais nous visons d'abord la vie, et puis le reste, on suit après. Les complications, il y a l'intestin là qui sort, qui rentre dans les scrotum et qui ne rentre pas dans l'abdomen. Ça reste là-bas et le bol alimentaire, c'est-à-dire l'alimentation, quand il parcourt tout l'intestin. Quand ça n'arrive plus à passer par l'intestin qui est dans les scrotum, qui est étranglé comme on dit parfois, tordu, ça crée la complication qu'on appelle occlusion intestinale aiguë. Là, il faut opérer en urgence. Si les parents passent à côté et que l'enfant est amené dans un centre de santé et que le médecin ou bien l'infirmier qui le reçoit passe aussi à côté, ça fait traîner du temps à l'enfant. Parce que souvent, ça se manifeste par des pleurs de l'enfant et des vomissements. Parfois, les gens peuvent croire que non, ce sont des vermes qui entraînent ce genre de problèmes, des parasites. Les gens peuvent dire, oh non, faut donner des vermifuges. Ils donnent des médicaments contre le ver. Alors qu'il s'agit d'un problème plus grave que le ver. Donc, quand les parents voient comme ça, ils doivent venir en urgence dans un grand hôpital.
Merci de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix. Vous suivez en ce moment Maïcha Bora, votre magazine de promotion des questions de santé et bien-être sur Radio Okapi. Nous parlons aujourd'hui de la hernie inguinale crotale. Il s'agit d'une maladie congénitale, c'est-à-dire l'enfant né avec. Les premiers signes peuvent apparaître dès la naissance. Vous avez les scrotum ou, si vous voulez, cette enveloppe qui protège le testicule qui gonfle suite à une progression des intestins dans le scrotum. Le traitement est chirurgical, mais le coût n'est pas toujours à la portée de tout le monde. Voilà pourquoi l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, ici à Kinshasa, dans la commune de Lingwala, sélectionne depuis quelques semaines des enfants souffrant de diverses maladies, dont la hernie inguinale crotale, en vue de la campagne d'intervention chirurgicale qui va démarrer dans cet hôpital à partir du 5 août prochain, en partenariat avec une équipe médicale de l'ONG internationale Médecins sans vacances. En dehors de la hernie inguinale crotale, beaucoup d'autres malformations congénitales, autres pathologies sont concernées par cette campagne. Docteur Dodo Musungu Noël nous rappelons qu'il est chirurgien et chef de service de chirurgie infantile à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe.
En principe, dans le programme de notre collaboration avec le médecin sans vacances, il s'agit des pathologies de chirurgie générale. Normalement, c'est comme ça qu'on parle de façon générale. Ce sont des pathologies de chirurgie générale. Alors, les pathologies de chirurgie générale, en général, concernent les maladies qui sont au niveau du tube digestif, au niveau du ventre. C'est ce qu'on appelle souvent les pathologies de chirurgie générale. Alors, entre autres, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Comme nous sommes en pédiatrie, le plus souvent, ce sont des malformations. Malformation un peu plus grave, c'est la malformation qu'on appelle malformation anorectale. C'est-à-dire un enfant qui naît sans anus. Certains, ils peuvent naître sans anus, mais avec un petit canal qu'on appelle fistule. Ça lui permet de vidager parfois les gaz, parfois les sels quand c'est liquide. Lui, il peut encore survivre. Mais les enfants qui naissent avec une malformation qu'on appelle MAR, obstructive, donc l'obstruction est totale, donc il n'y a pas ce canal-là, cet enfant ne peut pas survivre. En ce moment-là, on doit procéder à une intervention qu'on appelle une stomie. On cherche à lui créer un anus artificiel dans un premier temps pour que l'enfant puisse dégager tout ce qui est saleté qui sort du tube digestif. Et par après, quand il va grandir un peu, il aura 10 kilos ou une année, 2 ans, on peut maintenant reprendre pour l'opérer correctement. Après avoir fait les investigations, c'est-à-dire demander certains bilans des examens, on détermine à quel niveau ça se trouve. À ce moment-là, on peut maintenant programmer une intervention chirurgicale. Ce sont des grandes interventions. C'est parmi ces interventions que nous faisons dans ce cadre de cette campagne-là. Ça, c'est vraiment une intervention qui n'est pas réalisée partout dans la ville de Kinshasa. Il y a quelques hôpitaux où il y a des services de chirurgie pédiatrique avec des médecins entraînés à la matière. C'est ce que nous allons prendre dans la campagne. À part ça, nous avons d'autres pathologies comme la hernie. La hernie, en principe, dans l'ensemble, on appelle des pathologies du canal péritonéo-vaginal. Là-dedans, nous trouvons la hernie inguinoscotale ou hernie inguinale aussi. Là, nous trouvons ce que nous appelons cryptorchirurgie. Ce sont des testicules qui restent dans les trajets qui n'ont pas atteint leur situation définitive qui est le scrotum. Quand les testicules restent encore haut situés, on appelle ça cryptorchirurgie. Alors, il y a aussi des kystes, c'est-à-dire les canaux se ferment un peu tardivement et ça retient des liquides dans ces canaux-là. On appelle ça kyste du cordon spermatique. Alors, il y a aussi des hernies de l'ombilic. Les enfants qui naissent avec un gros ombilic, les gens croient que c'est normal. Ils disent non, nous dans notre famille, les gens naissent comme ça et nous vivons comme ça. Mais alors que c'est une maladie. Alors, ça se complique aussi. Quand l'intestin entre là-bas et ça se tord, ça ne rentre pas dans l'abdomen, c'est ce que nous appelons étranglement. Et l'enfant peut en mourir parce que les intestins là vont s'éclater, se perforer et ça va créer une maladie plus grave que nous appelons péritonite. Ça peut facilement entraîner l'enfant à la mort. Donc les parents qui ont des enfants aussi, de l'ombril qui est gros, c'est une maladie, ils doivent aussi se présenter pour qu'on arrange ça, on opère, on ferme cet orifice là. Nous pouvons voir des jeunes enfants qui peuvent présenter aussi des appendicites. Ça aussi nous pouvons opérer, nous sommes là. En particulier, nous prenons aussi quand même les parents qui ont des enfants qui ont des malformations du pénis, qu'on appelle les hypospadias. Ça aussi, c'est une pathologie qui pose des problèmes aux chirurgiens à la périphérie. Donc, ils doivent pas toucher, ils doivent nous référer ces malades-là qui posent des problèmes d'hypospadiase. Surtout de ne pas toucher leur prépuce parce qu'ils font la circoncision. Cette peau-là nous aide à aider ces enfants-là pour reconstituer leur urètre. Alors, nous prions aux médecins, aux infirmiers qui ne sont pas au courant que cette pathologie, on ne touche pas par n'importe qui. Il faut laisser les prépuces calmes qu'ils viennent consulter ici. Nous allons voir à quelle mesure leur trouver des solutions. À part ça, il y a encore d'autres pathologies que nous pouvons prendre en charge. Des nez, de parois, il y en a beaucoup.
Que peut alors représenter cet échange d'expérience? Nous avons posé la question au docteur Dodo Moussungu Noël, suivant sa réponse.
Comme nous disons toujours, on dit médecine d'ici et médecine d'ailleurs. Ici, nous allons à la formation, comme moi je suis un fruit des cliniques universitaires, là où je fais ma spécialisation. Nous avons la théorie. Les pathologies parfois arrivent, mais manquent de moyens, les nécessaires pour le prendre en charge. Le fait de manquer de moyens pour apprendre de prendre en charge ces enfants-là, nous sommes déficients des techniques qui arrivent à travers ces genres de conventions de médecins sans vacances. Normalement, des médecins sans vacances, ce sont des médecins de l'Europe qui arrivent avec de nouvelles techniques qu'on peut utiliser facilement chez nous à moindre coût. Alors quand ils viennent, nous essayons de prendre en charge les pathologies les plus graves, mais dans des techniques un peu plus simples et qui ne demandent pas beaucoup de moyens. Ces échanges-là nous permet d'acquérir des connaissances pour que même si eux ils sont pas là, nous restons capable de le prendre en charge. C'est ça vraiment le point clé de notre change, de notre convention, qu'on travaille en collaboration avec l'équipe de médecins sans vacances. Sans oublier, ils viennent avec une grande équipe, des chirurgiens, des anesthésistes et même des infirmiers. Ça, c'est du côté personnel. Mais du côté matériel, ils apportent aussi les intrants, les nécessaires pour les interventions. Mais ce qui est vrai, ils viennent peut-être, ils pensent qu'on peut trouver 20, 25 cas, mais ils sont étonnés, on peut se retrouver avec 100, 200 enfants à opérer. En ce moment-là, les parents, quand il y a des donateurs, comme c'était l'année passée avec l'association Sans Frontières, ils nous sont venus en aide. Ils ont tout apporté pour compléter ce que le médecin sans vacances avait amené. Là, les parents n'avaient donné aucun rond. Les parents n'avaient rien donné, ils ont été pris en charge parce qu'il y avait des donateurs. L'association a pu intéresser les personnes de bonne volonté qui sont venues en aide et nous avons opéré plus de 200 malades gratuitement, pris en charge même à manger. Mais cette fois-ci, comme ils ont déjà un autre programme de campagne, ils prennent en charge le malade de trisomie qui ne paye rien. Nous, maintenant, nous travaillons seulement avec médecins sans vacances, avec l'hôpital. Donc, pour certains enfants qu'il faut acheter du sang, les parents doivent acheter. S'il faut compléter quelque chose pour réunir le nécessaire à opérer, les parents sont obligés de chercher un petit rien. Mais sans oublier qu'il y a des parents congolais qui ne sont pas capables d'avoir $50 pour faire opérer leur enfant. Donc nous avons toujours besoin des gens de très bonne volonté pour leur venir en aide.
Sachez que ces partenariats entre l'ONG Médecins sans vacances et l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe ne datent pas d'aujourd'hui, cela fait déjà plusieurs années et les résultats sont encourageants, non seulement dans le cadre d'échanges d'expériences, mais aussi à ce qui concerne leur appui en intrants, médicaments, en vue de mener à bien chaque fois qu'il y a une campagne en faveur des enfants dont les familles sont démunies. Docteur Catherine Akele, médecin directeur de l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe, revient sur l'impact positif de ces partenariats entre cet hôpital et l'ONG international Médecins sans vacances.
Les médecins sans vacances sont nos partenaires depuis plusieurs années maintenant. C'est depuis 2002 que nous travaillons avec eux. C'est dans le cadre d'échanges et de formation de notre personnel dans plusieurs domaines, aussi bien des domaines purement médicaux comme les soins intensifs, la chirurgie, la nutrition, plusieurs domaines, mais aussi par rapport à l'organisation d'un hôpital, le nursing, comment doivent travailler les infirmiers, l'hygiène hospitalière. Alors, si on doit revenir sur la chirurgie, nous avons avec eux des conventions. Ils viennent au moins deux fois par an pour des missions comme ça, des chirurgies. Ça a deux buts. Le premier but, c'est former nos médecins à la chirurgie comme on le fait un peu en Europe, la chirurgie surtout infantile. Mais il n'y a pas que la chirurgie comme pour opérer, mais aussi l'organisation du bloc opératoire. l'implication des infirmières dans le bloc opératoire. Donc tout ça, c'est ce que les médecins sans vacances viennent faire. Et depuis plusieurs années maintenant, ils ont pu former nos chirurgiens dans plusieurs domaines, aussi bien dans des pathologies comme les pieds beaux, c'est-à-dire des enfants qui naissent avec des pieds mal formés, que pour d'autres pathologies aussi chirurgicales. La deuxième chose, c'est vraiment pour pouvoir aider des enfants qui n'ont pas beaucoup de moyens, parce que quand ils viennent comme ça, nous demandons quand même que les parents participent, parce que eux, ils viennent avec une partie du matériel, certains intrants, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut qu'on ait sur place. On doit faire des examens pour ces enfants-là, aussi bien de labo que de radio, certaines échographies, parfois même de scanner. Quand il faut les opérer, il y a tout ce qu'il faut, l'oxygène, le sang. Bon, ils emmènent aussi parfois certains médicaments, mais il y a des moments où il n'y en a pas assez, nous devons acheter. C'est pour ça que nous demandons une petite contribution aux parents, nettement moins que quand nous opérons dans nos conditions normales. Et donc, ils vont venir, il y a déjà beaucoup d'enfants, je crois que vous avez parlé avec les chirurgiens.
Et avant de nous quitter, suivant cet appel du docteur Akel et Catherine, à toutes les personnes de bonne volonté, mais aussi à d'autres familles concernées par toutes ces maladies, mais qui ne peuvent pas bénéficier de cette campagne, il y en aura bien d'autres, mais à condition qu'il y ait des partenaires pour soutenir ces gens des campagnes, afin de donner la chance de survivre aux enfants dont la vie est en danger simplement parce que leurs parents sont dépourvus de moyens.
Le problème que nous avons, c'est quoi? C'est que la plupart de ces enfants-là qui viennent des familles très pauvres. Et si beaucoup gardent ces pathologies pendant longtemps, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Or, la plupart, c'est des pathologies qui, si on les soigne très rapidement, les enfants mènent une vie normale. Alors que ces enfants vivent dans des conditions parfois d'handicap avec certaines pathologies chirurgicales qu'on peut opérer, tout simplement parce que les parents n'ont pas d'argent. Même le peu que nous allons demander là, beaucoup n'auront pas les moyens de le faire. C'est pour ça que je profite de votre micro ici pour faire appel aux personnes de bonne volonté. Nous travaillons, nous avons l'expertise, nous avons un plateau technique avec les gens qui viennent nous aider, mais la santé a un coût. Même ces interventions-là, comme j'ai dit ici, ça a un coût. Et donc, nous avons besoin des gens de bonne volonté qui peuvent nous aider à ce qu'on puisse opérer le plus d'enfants possible, sans que nous soyons gênés par rapport à notre organisation et que les interventions se fassent dans de bonnes conditions. Et donc, vraiment, je fais appel à tous ceux qui peuvent de venir nous aider pour qu'on ait de l'oxygène, qu'on ait du carburant, vous connaissez le courant, comment ça part chez nous souvent, qu'on ait du sang, qu'on ait les médicaments qui manquent pour ces enfants-là. Nous avons même eu des gens qui sont venus pour, dans le cadre de cette campagne-ci, de l'intérieur. J'ai une maman qui est venue du Bas-Congo. Bon, c'est vrai que le Bas-Congo a ici, la route est bonne et que c'est pas très loin, mais pour ceux qui sont à l'intérieur, c'est vrai que, comme j'ai dit, ces campagnes-là se font au moins 2 à 3 campagnes de chirurgie par an. Il y aura une autre campagne, peut-être au mois de novembre, toujours avec les médecins sans vacances. Nous, en appelant à Radio Capi, qui sont là, avec qui nous avons de bonnes relations depuis longtemps, si ces missions sont programmées, nous allons lancer un appel. Ceux qui sont à l'intérieur, qui ont les moyens d'arriver jusqu'ici, ils pourront toujours venir et ils seront pris en charge par nos équipes. Ceux qui ont les moyens, qui peuvent nous aider, ils viennent à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. L'hôpital pédiatrique de Kalembelembe est connu, c'est dans la commune de Lingwala. Ils peuvent venir faire leurs dons. S'ils ont besoin de nos numéros de compte, on pourra les leur donner, mais peuvent se présenter pour qu'on voit. Je crois qu'il ne faut pas qu'ils aient peur. Nous sommes des gens crédibles. On a déjà fait ce genre de choses. Et ceux qui vont donner pour les patients iront vraiment pour ce pourquoi cet argent sera donné.
Et voilà, c'est avec cet appel du docteur Catherine Akele, médecin directeur de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, que nous mettons un terme à ce numéro de Maïcha Bora. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Jean-Claude Sial qui l'a mise en onde sous la supervision de Jean-Marc Mataki. Au micro, Marcel Ngombombala. À très bientôt dans un nouveau numéro de Maïcha Bora.